Les ennuis s'enchaînent pour Air Calin. La compagnie a dû annuler la nuit dernière la rotation vers Singapour. Près de 1000 passagers sont impactés par les problèmes récurrents. À Dimbéa, des personnes condamnées à effectuer un travail d'intérêt général participent à la remise en état de l'espace public. 48 personnes ont déjà effectué leur peine dans le cadre de ce dispositif. C'était ce matin la vente aux enchères des carcasses primées lors de la foire de Bourail. Elle s'est déroulée dans les locaux de l'OSEF. La plus belle carcasse a été vendue 3210 francs le kilo. Cette course de chevaux, pas comme les autres, qui se courra dimanche sur l'hippodrome Henri Millard. La Coupe Clark, qui fête cette année ses 100 ans, était au cœur de notre magazine Citoyen ce midi. Et puis du golf avec la première journée du South Pacific Junior Open sur le parcours de Tina. À l'issue de la première journée de compétition, c'est le métropolitain Maxime Gelbert qui est en tête du leaderboard. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Les difficultés se multiplient donc chez Air Calin. La nuit dernière, le vol SB741 Nouméa Singapour et retour a été annulé. Il est toujours à l'heure où nous parlons en attente de reprogrammation. En plus de l'annulation du vol de la nuit dernière, la compagnie a également dû annuler deux vols aller-retour sur Bangkok. Le vol du 17 août qui n'a toujours pas été reprogrammé, mais aussi le vol du 15 août dont certains passagers avait été reprogrammé sur le vol de la nuit dernière à destination de Singapour. Laurent Fogliani est le directeur de la coordination stratégique chez Air Calin.
Nous sommes dans une situation rare et difficile pour nos passagers comme pour nos équipes. Nos deux A330, donc les deux longs courriers, sont actuellement sous aléa. Un premier, et on le sait désormais depuis quelques jours, pour cause d'odeur persistante. Et le second, pour impact sur une des lames d'un des réacteurs. Donc nos équipes techniques, évidemment, interviennent sur les deux appareils afin qu'ils puissent répondre aux normes de sécurité permettant leur remise en vol dans les meilleurs délais. Et en attendant, nos équipes commerciales renforcent leur présence auprès de nos passagers pour trouver le plus de solutions possibles et surtout des solutions sur mesure pour chacun d'eux.
Les conséquences de ces annulations à répétition, près d'un millier de passagers se trouvent impactés en Calédonie, en métropole, mais aussi aux différentes escales de la compagnie.
On en a 600 en Nouvelle-Calédonie, dont 50 qui étaient à destination de Bangkok. À Bangkok, l'ensemble des personnes ont été redirigées. À Paris, on en a à peu près 250 en souffrance. Et sur Singapour, à peu près 300 personnes qui sont en cours d'acheminement vers Singapour que nous allons rediriger dans les jours qui viennent.
Les pannes à répétition en cette période de haute saison et au moment où de très nombreux étudiants rejoignent la métropole pour leurs études commencent à provoquer la frustration mais aussi une forme de colère chez les passagers.
La frustration des clients qui peut être ressentie, elle est légitime. Nos équipes la vivent également. Là, si je peux me permettre, je ferai un appel au calme aussi parce que aussi bien pour les agents des agences de voyage comme d'Air Calin, quelle que soit l'escale, chacun fait au mieux en fonction des disponibilités et je pense qu'on peut se dire honnêtement, aucune violence ni verbale ni physique ne peut être justifiable dans ces cas-là.
Parce que vous l'avez constaté de
la nous l'avons déjà constaté évidemment. Nous faisons au mieux, ce que je peux déjà vous dire aussi c'est que on essaie dans ces cas-là et systématiquement de pouvoir rerouter nos clients. On s'assure systématiquement qu'ils arrivent à destination effectivement avec un délai, qu'on puisse les avoir acheminés dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions de sécurité.
Laurent Fogliani, directeur de la coordination stratégique chez Air Calin, qui était ce midi l'invité de Jean-François Bodin dans Infomag. Une nouvelle communication aux passagers est attendue pour le début de la soirée. Notez également à propos de ce dossier que demain après-midi, le congrès réuni en commission plénière auditionnera les représentants d'Air Calin sur les difficultés techniques rencontrées par la compagnie. Et puis en mer, la rotation du Betticho entre Nouméa, Lifou et Ouvéa est avancée d'une journée en raison de la dégradation des conditions météorologiques qui sont annoncées pour vendredi. La rotation initialement prévue les 20 et 21 août se fera finalement demain. Le départ de Nouméa est prévu à 7h avec une arrivée à Lifou à 12h45, puis un départ à 14h45 pour Ouvéa où le navire est attendu à 18h15. Le retour vers Nouméa aura lieu jeudi avec un départ d'Ouvéa à 7h et une arrivée à Nouméa prévue à 17h. Les billets sont automatiquement transférés sur ces nouvelles dates. Les passagers concernés ont été informés par SMS ou par mail et n'ont pas besoin de réimprimer leurs billets. Dimbéa renforce la lutte contre les tags et les dégradations de l'espace public. Des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général interviennent depuis février pour effacer les graffitis et remettre en état le mobilier urbain et entretenir les fresques du parcours Dimbéart. Léana Colombo.
Quatre personnes placées sous main de justice interviennent deux fois par mois durant une semaine pour effacer les tags et nettoyer les dégradations. Elles sont encadrées par l'association Active dans le cadre d'un partenariat avec Dimbéa et le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Une visite de terrain était organisée aujourd'hui à l'esplanade du collège d'Apogoti. La maire de Dimbéa, Cynthia Jean, a notamment rencontré Nelson et Christian qui participaient aux travaux d'intérêt général.
J'ai fait 6 mois de bracelet et du coup le reste je dois faire mes tiges. J'ai 200 heures de tiges. Puis là, j'ai déjà fait 145 heures. Ce matin, on était à Koutio. Puis là, l'après-midi, on est venu sur Dimbéa pour effacer les tags au collège de Apogoti. Ça nous aide aussi. Comme on ne travaille pas, du coup, voilà, les tiges, ça aide.
Il doit être à 40 ans. C'est bon aussi. Comme ça, ça va réfléchir aussi. Pas arrêter les bêtises. Non, mais voilà, c'est bien. C'est bien les petits travaux aussi. C'est pas trop compliqué aussi. Il fait que de la peinture, bord de route, tout ça, les écoles. Il faut toujours maintenir propre. Hein. Il faut que ça soit joli aussi.
Pour la ville de Dimbéa, l'objectif est double, améliorer durablement le cadre de vie tout en responsabilisant les personnes effectuant des tiges et favoriser leur réinsertion. La maire de Dimbéa, Cynthia Jean, l'explique par le principe « tu casses, tu répares ».
Tout cela fait partie d'un arsenal que nous mettons en place à Dimbéa qui veut que finalement, si tu as commis un délit, si tu as cassé quelque chose, eh bien tu vas réparer, tu vas payer ton erreur en la réparant, soit avec les mesures de justice transactionnelle, en mettant en place les outils administratifs pour que celui qui a cassé quelque chose puisse financer sa réparation. Ces outils n'existaient pas, on les a mis en place, notamment une convention avec monsieur le procureur. Et puis là, on est un peu dans la même chose, hein. Tu casses, eh bien, tu vas réparer en faisant un acte pour le bien de la collectivité.
Sur le terrain, le dispositif semble déjà porter ses fruits. Louise Valin, directrice d'Active, constate une diminution des graffitis dans les secteurs ciblés par la ville.
En amont, la ville de Dimbéa a identifié les différents secteurs sur lesquels elle souhaite qu'on intervienne. Donc tous les 15 jours, on a, on va dire, un petit ordre de passage dans les rues dans lesquelles on intervient. On est vraiment sur une brigade anti-tag. Donc ça va être peindre les tags. Mais selon les communes dans l'aglo, la nature des travaux peut être différente. On se rend compte en fait que certaines rues aujourd'hui, on ne retrouve quasiment plus de tags. Donc est-ce que c'est lié aux interventions ou non? Mais moi je reste persuadée dans tous les cas qu'à partir du moment où on demande aux citoyens en fait de s'engager sur une mission pour réparer sa peine, je pense qu'il y a forcément que du positif et je pense que c'est une belle alternative à la prison.
Depuis le lancement de la brigade en février, 48 personnes ont déjà participé au dispositif. Les interventions doivent se poursuivre jusqu'en décembre. Le budget annuel consacré à cette opération s'élève à environ 5 millions de francs, financé dans le cadre du plan jeunesse de la ville de Dimbéa avec le concours de l'État.
Dans l'actualité ce soir également, après 6 mois de déploiement en Nouvelle-Calédonie, le bilan du Pass Culture est prometteur. Environ 2200 jeunes de 17 et 18 ans sont aujourd'hui inscrits et plus d'une centaine d'acteurs culturel propose des offres sur la plateforme. Cela représente déjà 30% des jeunes concernés, alors que le dispositif n'est pour l'instant, Léana, déployé qu'en province sud.
Oui, destiné aux jeunes de 17 et 18 ans, ce pass facilite l'accès à la culture. Les premières données montrent que le cinéma arrive largement en tête des réservations devant la littérature et la musique, notamment avec l'achat d'instruments. L'objectif est désormais d'étoffer et de diversifier l'offre proposée. Les prochaines francopholies de Nouvelle-Calédonie sont notamment accessible via le Pass Culture. D'autres événements et propositions culturelles pourraient également rejoindre la plateforme dans les prochains mois. Et une nouvelle étape vient d'être franchie. Les provinces Nord et des îles Loyauté ont délibéré en faveur de son déploiement. L'enjeu des prochains mois sera donc de poursuivre cette montée en puissance et de proposer une offre culturelle qui corresponde aux attentes des jeunes sur l'ensemble du territoire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Le Conseil constitutionnel a-t-il eu raison, selon vous, de rejeter l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, en estimant que le texte porte atteinte à la liberté d'expression? Si vous pensez que le Conseil constitutionnel a eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a eu tort, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 58% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas approuver l'envoi à Paris d'une mission transpartisane pour essayer de trouver une solution aux difficultés financières de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont à l'inverse 42% à dire qu'ils approuvent ce déplacement. Il est 17h et pratiquement 56 minutes. On va marquer une nouvelle pause, dans une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info Soir, Lionel Sabot.
Les meilleures carcasses de la foire de Bourail étaient mises aux enchères ce matin à l'OCEF, une vente qui permet de récompenser les éleveurs et de valoriser leur travail, Léana.
Oui, il y avait foule ce matin dans les chambres froides de l'OCEF à Ducos, de nombreux éleveurs mais aussi de nombreux bouchers. Après le concours de la foire de Bourail qui avait lieu mercredi dernier au domaine de Deva, les meilleures carcasses étaient une nouvelle fois mises à l'honneur. Le premier prix du concours bovin revient cette année à la station agricole de Nassandou, une belle récompense pour Robert Christopher, gérant de la station.
Grand gagnant de ce concours carcasse gros bovin de la foire de Bourail 2026, Agricale Nassandou de Païta avec un sénésin de 615 kg et un rendement exceptionnel de 70%.
Ah ben c'est une grande joie pour nous. C'est le résultat de notre travail, quoi. Ça, c'est tous les jours. H24, le matin, nourriture, entretien du bétail, déplacer sur des parcelles plus vertes. Ah, c'est un travail de tous les jours. On est fiers. C'est un sénésin de 3 ans. 3 ans de travail derrière pour l'emmener jusqu'à là.
La carcasse a ensuite trouvé preneur auprès de Géant Sainte-Marie. Les bouchers ont fait monter les enchères jusqu'à 3210 francs le kilo, soit près de 2 millions de francs pour la carcasse. Une somme qui récompense directement la qualité de l'animal, mais aussi et surtout le travail réalisé pendant plusieurs années par l'éleveur. Hans Biré, responsable et superviseur des boucheries de Géant Sainte-Marie.
C'est vraiment pour le commerce, c'est pour vraiment attirer le monde. C'est vraiment là, c'est un coup d'éclat, quoi. C'est pour vraiment attirer, drainer le monde. Voilà, c'est vrai. Et bien sûr, toujours pour valoriser le mieux les carcasses du travail des éleveurs, récompenser, c'est plutôt une récompense quoi, voilà, aux éleveurs, quoi. Bien sûr, c'est normal. Pour moi, c'est une enchère spéciale, donc je forme une à la relève, quoi. Donc ouais, c'est vraiment exceptionnel, là, 3100, ouais. Oui, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, bien sûr.
Cette carcasse, vous l'avez regardée, il y avait quelque chose en particulier quand même dessus
ou... Elle était bien faite, bien conforme, elle était avec pas beaucoup de pertissage à l'intérieur, à l'extérieur, donc elle est compacte et tout, ouais, c'est du lourd, ouais, ça va être très très bon. Ouais.
Cette année, le concours a réuni un plateau particulièrement fourni, 24 carcasses bovines, mais aussi 8 carcasses de veaux. Une participation qui permet aussi de montrer la diversité de l'élevage calédonien, a tenu à souligner Mathieu Autogali, directeur de l'OCEF, section viande.
C'est bon signe, ça veut dire que la filière est dynamique. Hein. 24 carcasses, c'est un très bon taux de participation. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de carcasses. Et comme vous avez pu le voir, c'est des carcasses exceptionnelles. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, même s'il a fallu les différencier. Là, on a une belle diversité de races, hein. on a un petit peu de tout. Ça vient de différentes communes, du nord, du sud, du centre. C'est vraiment représentatif de la qualité de l'élevage local.
Et à noter que les professionnels du Nord pouvaient eux aussi participer aux enchères via WhatsApp. Et puis, dès samedi matin, les viandes de ce deuxième concours de l'année seront à retrouver dans les boucheries du territoire.
La cybercriminalité touche aussi la Nouvelle-Calédonie. En métropole, des hackers ont piraté, vous le savez, l'administration fiscale et dérobé les données confidentielles de quelques 680 000 particuliers et entreprises. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la néobanque Bibank a connu un incident de sécurité. C'était en mars dernier et les données de 12 000 clients se seraient retrouvées en vente sur le dark web. Un type d'arnaque malheureusement bien rodé, selon l'expert en cybersécurité Laurent Rivaton.
C'est complètement organisé, c'est complètement structuré, c'est complètement mondialisé. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans différents domaines en fait. Et donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a des gens qui ont volé ces données et qui après, comme c'est pas des spécialistes de leur utilisation, ils les mettent en vente de façon à ce que d'autres qui sont spécialisés dans différents types d'arnaques puissent acheter ces données pour les utiliser pour leurs arnaques. Les informations bancaires, elles sont intéressantes parce qu'en général, elles sont personnelles et elles sont identifiables par les victimes ou les cibles. Si on m'appelle en me disant « Bonjour, monsieur Rivaton, je vous appelle parce que je représente telle banque, votre numéro de compte, c'est ça, etc. » Ces éléments étant vrais, je vais avoir confiance dans l'interlocuteur que j'ai au téléphone. Et donc, du coup, ce climat de confiance, il va instaurer un lien qui va permettre à l'arnaqueur qui est de l'autre côté de m'extorquer de l'argent, par exemple.
Et il faut donc être vigilant, rappelle Laurent Rivaton.
Quand il n'y a pas de contact direct de quelqu'un qu'on voit, dont on peut vérifier l'identité, il faut être méfiant ou à minima prudent. Dès qu'on vous demande, en général dans l'urgence, de fournir des éléments relatifs à de l'argent ou des éléments qui sont secrets, typiquement quelqu'un qui vous dit vite, vous êtes menacé, enfin je sais pas quelle histoire, donnez-moi vite votre compte et votre mot de passe pour que je puisse vérifier que vous n'avez pas de problème. Là, il y a donc une demande urgente de communiquer quelque chose qui est secret, un compte et un mot de passe. Il faut se méfier, il faut respirer, prendre son temps, prendre quelques secondes pour réfléchir à la situation. Est-ce que le coup de fil est légitime? Par exemple, si c'est quelqu'un qui prétend être de ma banque, rappeler la banque sur le standard et demander qu'on me passe la personne pour poursuivre la conversation. Il y a tout un tas de stratagèmes comme ça qui permettent de s'assurer que c'est pas n'importe qui m'appelle et qui essaie de m'arnaquer. Donc dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du secret, il faut être prudent.
Les dirigeants de Bibank indiquent prendre très au sérieux le fait que certaines données issues de cet incident puissent aujourd'hui être accessibles et utilisées par les personnes malveillantes. La banque invite donc ses clients à faire preuve de la plus grande vigilance. Un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Le président du MEDEF-NC, Bertrand Courte, va participer à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF National, qui se tiendra les 26 et 27 août au stade Roland-Garros. Une édition exceptionnelle de la REF à moins d'un an des élections présidentielles et législatives, avec de très nombreux intervenants de haut niveau. Avant son départ pour Paris, Bertrand Courte sera notre invité du matin, demain à 7h30, pour nous dire ce qu'il attend de sa participation à ce rendez-vous. Il sera aussi interrogé sur l'actualité calédonienne après la mise en place des institutions issues des provinciales du 28 juin. La fin que continue de soutenir les régulations de marché. Elle a réagi à un communiqué que l'UFC Que Choisir a publié hier et qui conteste trois demandes de régulation de marché actuellement à l'instruction. La fin que rappelle à son tour que la régulation de marché n'est pas un privilège accordé au coup par coup et à la tête du client. Elle dispose d'un cadre légal voté par le Congrès. La fin que détaille ensuite pourquoi ces demandes de régulation de marché pour les glaces, les verres optiques ou encore le textile imprimé et brodé sont, selon elle, utiles et nécessaires. La fin qui rappelle enfin qu'une évolution approfondie des mesures de régulation de marché a été effectuée par un cabinet d'audit retenu par l'État et le gouvernement et qu'en aucun cas la production locale ne peut être tenue pour la cause principale de la vie chère. Vinci Construction a un nouveau directeur régional pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Virgile Denis a pris ses fonctions le 20 juillet dernier et devient également président des filiales locales du groupe, un territoire qu'il connaît déjà puisqu'il y avait exercé des responsabilités entre 2007 et 2011. Fort de près de 20 ans d'expérience au sein de Vinci Construction, il aura notamment pour mission d'accompagner le développement des activités du groupe dans la région, alors que la Nouvelle-Calédonie fait face à d'importants enjeux de reconstruction et de relance économique. Parmi ses priorité, la sécurité, la formation, l'emploi local, mais aussi l'innovation et la responsabilité sociétale. Dans un tout autre domaine, gagner la Coupe Clark, c'est le Graal. Cette course de chevaux, pas comme les autres, véritable institution en Calédonie, était au cœur de notre magazine citoyen ce midi. L'édition 2026 sera courue ce dimanche sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa et elle fêtera Jean-François Bedin à cette occasion les 100 ans de sa création.
Ah oui, une véritable page d'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Coupe Clark a effectivement 100 ans, un siècle au cours duquel elle n'a pas pu avoir lieu à 7 reprises seulement, pendant les 5 années de la Deuxième Guerre mondiale et plus récemment pendant la crise Covid ou après les émeutes de 2024. La Coupe Clark, devenue la Casino Coupe Clark, est donc une institution. Et tout a commencé en 1926, a rappelé Éric Sauvent, le président de la Société sportive de Nouvelle-Calédonie, organisateur de l'événement, grâce à M. Clark.
M. Clark était un négociant en farine, qui avait quand même des gros moyens, et qui a été enthousiasmé par voir justement les résultats des chevaux nés en Nouvelle-Calédonie, et a tenu justement à encourager l'élevage local, et à ce titre-là justement a créé une grande course avec des conditions bien particulières, et il a mis en jeu un trophée d'une valeur de 9000 francs de l'époque. Or, c'était sous le haut patronage du gouverneur à l'époque, c'était vraiment l'événement. Mais c'est toujours l'événement, oui, c'est toujours resté au fil des temps. C'est la conquête du Graal pour les socioprofessionnels. Naturellement, ça reste l'aboutissement d'avoir la fierté d'amener un cheval qui est né et élevé en Nouvelle-Calédonie et de réussir à l'amener toute sa carrière pour bien souvent un objectif, gagner un jour la Casino Coupe Clark.
Et cette chance de remporter la Casino Coupe Clark, Robert Christian l'a connue. C'était l'an dernier avec la victoire de son cheval The Star, qui sera d'ailleurs encore sur la ligne de départ cette année. Et c'est un souvenir qui lui procure toujours autant d'émotions.
C'est particulier parce que, en fait, on est encore dans notre bulle de compétition. Et en fait, on s'en rend compte le soir quand tout le monde veut faire la fête. Mais sur le coup, moi, j'étais impressionné. J'avais envie de pleurer, de rire. Enfin, c'est difficile à exprimer. Ce qui est sûr, c'est que ça arrive une fois dans sa vie, quoi, cette émotion-là. Et moi, je viens des sports mécaniques. Je connaissais l'émotion, mais alors le cheval, c'est particulier. C'est à tomber par terre quasiment, quoi. Et je le vois autour de moi. Il tombe assis, quoi. Les gens tellement ils sont heureux. Et notamment autour de moi, ma famille. Eux, ça les touche beaucoup, quoi.
Vous avez encore de l'émotion en parlant. Hein.
Ah, c'est incroyable.
La Casino Coupe Clark, une course donc réservée aux chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie, elle a aussi d'autres particularités. Elle se court d'abord sur 1600 mètres, c'est-à-dire le mile anglais. Elle ne privilégie ni les sprinteurs, ni les chevaux de longue distance. Et pour remporter le trophée mis en jeu par Ernest Edward Clark il y a 100 ans maintenant, un cheval doit remporter la course 3 années consécutives sous les mêmes couleurs, c'est-à-dire avec la même écurie. Seuls 6 chevaux ont réussi ce tour de force dans l'histoire de la Coupe Clark, dont les noms ont marqué d'ailleurs les courses hippiques sur le territoire. Turenne, Farouk, Balthier, seul cheval à avoir remporté la course 7 années de suite, c'est-à-dire qu'il a décroché 2 fois le trophée, et plus récemment New York Magic, Anou et le dernier en date Ivoril. La Casino Coupe Clark est donc une course à part et Nicolas Schneider peut en témoigner. L'actuel président de la Fédération des sociétés de course hippique de Nouvelle-Calédonie assure toujours les commentaires sur les champs de course et notamment pour la Casino Coupe Clark.
C'est une course pas comme les autres parce que je vous cache pas que des fois je ne m'entends plus moi-même. Il y a une telle ferveur dans le public et que dès le départ il y a une ferveur que l'on ressent et au travers du public. Alors c'est merveilleux parce que moi cette ferveur elle me nourrit, hein. Effectivement les commentaires sont aussi un peu plus passionnés ce jour-là, et au-delà du fait que c'est pour nous passionnés turfistes le summum de la saison, effectivement moi j'adore l'histoire qui est racontée au travers de cette course, puisqu'il y a tout un travail de préparation, il y a des chevaux qu'on a vu progresser tout au long de leur jeune âge, deux ans à trois ans. C'est aussi des chevaux qui ont des parcours un peu particuliers. Je sais m'être enflammé pour la victoire de Pacific du Cap, qui était pour moi quelque chose de merveilleux, hein. Un cheval qui avait chuté quelques réunions après. Tout un travail de l'entraîneur et des propriétaires pour le ramener en condition. Et puis aussi, c'était la première Coupe Clark de la maison d'Olbo, hein, qui a marqué l'hippisme calédonien. Donc effectivement, une émotion particulière ce jour-là, et je me nourris de ça, en fait.
La Casino Coupe Clark, c'est aussi tout un environnement avec concours de chapeaux et de nombreuses animations dont nous avons aussi parlé avec les invités du magazine Citoyen qui ont d'ailleurs aussi livré, non pas leurs pronostics, mais en tout cas qui ont parlé des chevaux qu'ils verraient bien remporter cette course cette année. Tout ceci est à retrouver sur notre site internet et notez que la Casino Coupe Clark, année du centenaire, sera courue dimanche sur l'hippodrome Henri Millard.
Merci Jean-François, 18h10, on va marquer une dernière pause dans ce journal, vous restez avec nous. Dans un instant, on parle golf et météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chers parents, vous habitez en province sud et votre enfant fait sa première rentrée scolaire en février 2027. La démarche se fait en ligne. Elle est en cours et se termine le 21 août. N'attendez plus, allez sur province-sud.nc et cliquez sur le visuel.
La province sud, agir pour l'avenir.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, et c'est ce matin qui a été donné le coup d'envoi du SPGO, le South Pacific Junior Open. Jusqu'à jeudi, ce sont 42 jeunes, dont 16 filles, qui vont participer à cette épreuve qui est ouverte aux moins de 25 ans. La jeunesse qui est mise en avant, c'est d'ailleurs un jeune golfeur calédonien, Hugo Koch, qui est le directeur de ce tournoi. Hugo Koch qui joue et qui dirige ce tournoi.
Je voulais voir un peu ce que ça donnait de l'intérieur aussi, pas être que joueur. Et non, c'était très bien, très bonne expérience.
Ça consiste en quoi le rôle de directeur de tournoi ?
Plein de choses, j'ai géré les inscriptions, le lien avec la SEM de Tina et la GT, je suis allé sur le parcours pour placer les drapeaux, plein d'autres petits détails. Mais voilà. C'est compliqué d'être joueur et en même temps organisateur, mais c'était sympa à découvrir, mais après à refaire, je ne sais pas encore. Ce matin, j'ai réussi à me dire que j'étais que là joueur, pas organisateur et que je reprendrai ce rôle quand j'aurai fini la partie, mais pas pendant la partie.
Que pense le directeur du tournoi de cette première journée du SPGO ?
Je pense que c'était bien. Alors c'était très dur parce qu'il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, énormément de vent. Les greens sont bien plus rapides que ce que j'aurais imaginé à la base. Donc beaucoup d'entre nous se sont fait avoir, mais maintenant on est au courant, donc ça va.
Ok, super. Et 42 jeunes participent donc à ce tournoi. Parmi ces joueurs, les meilleurs Calédoniens, bien évidemment, y compris ceux qui effectuent leurs études en métropole ou à l'étranger, mais aussi des joueurs venus d'Australie et de métropole. C'est le cas de Maxime Gelbert. Il est né en Guadeloupe, fait ses études en métropole et a profité de vacances en Calédonie pour s'inscrire à ce tournoi. Nous l'avons rencontré à l'issue du premier tour.
Je prends un triple en début de partie, qui est un mauvais, très très mauvais choix stratégique. Mais je suis bien en montée, donc je suis confiant sur le reste de la semaine. Je sais que je peux aller chercher des scores assez bas. Garder la tête froide, ça va être ça la clé. Les conditions de jeu, surtout sur les 5-6 premiers tours, étaient très difficiles. Quand on est passé nous sur le 15, il y avait un vent en rafale, c'était assez dur de jauger. Et les greens, les greens sont pas dans leur meilleure forme, de ce que j'ai compris. Après, ce sont les mêmes pour tout le monde. C'est clair qu'il faut faire attention et puis faut se mettre plus proche du drapeau.
Maxime Gelbert qui est en tête du leaderboard ce soir à l'issue de ce premier tour après avoir rendu une carte de 73 à un coup au-dessus du par. Il devance d'un coup Auguste Lardin et de deux coups Hugo Koch. Chez les dames, c'est l'Australienne Anna Thomas qui est en tête devant la métropolitaine Tiffany Kongyasu et la Calédonienne Lola Alibo. Le deuxième tour de ce tournoi se jouera demain, premier départ à 8h30 sur le parcours de Tina. On termine avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir Ismaël. Et que vois-je des vigilances jaunes sur les communes de la côte ouest, l'île des Pins et Marais ?
Et oui, on commence avec la vigilance jaune. Vent violent, vous l'avez dit, Boulou Paris, Koumac. Demain après-midi, pour analyser de sud-est pouvant dépasser les 25 nœuds, avec des rafales à plus de 35 nœuds, soit l'équivalent de 65 km/h. Et la vigilance jaune forte houle concerne l'île des Pins jusqu'à Boulou-Paris et sur Marais en première partie nuit pour une houle de secteur sud de 3 mètres à 3,50 mètres. Ça représente tout de même 16 communes sous le coup de ces deux vigilances. Ce soir, sur la côte ouest, les nuages se dissipent, laissant place à des périodes de ciel bien étoilé. Sur les autres régions, le temps est très nuageux à couvert. Des averses circulent le long de la côte est et sur Bélep, plus rarement ailleurs et dans l'intérieur des terres. Le vent mollira autour des 10 nœuds, voire localement jusqu'à 5 nœuds. Les températures minimales ce soir sont comprises entre 14 et 18 degrés et localement 11 à 13 degrés dans l'intérieur.
Et pour demain matin, Ismaël, alors sur l'ouest au nord de Païtel, le soleil sera généreux.
Oui, et sur la côte est, après quelques averses en début de matinée, les éclaircies gagneront du terrain. Aux Loyautés, sur la pointe sud et l'île des Pins, des passages nuageux accompagnés de petites averses circuleront. Le vent de sud-est, lui, s'établira progressivement entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Il sera en revanche, Lionel, plus faible sur la pointe sud et l'île des Pins, compris entre 15 et 20 nœuds.
Un petit coup d'œil à demain après-midi.
Sur la pointe sud, l'île des Pins et aux Loyautés, le ciel restera nuageux et parsemé de courtes ondées au début. De la pointe nord à Bélep, les nuages seront plus nombreux, mais le temps sera sec. Ailleurs, le soleil sera généralement bien présent, mais en cours d'après-midi, des nuages remonteront sur le sud-ouest, tandis que d'autres déborderont localement du relief vers la côte est. Le vent de sud-est soufflera souvent entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Localement, sur l'ouest, il pourra dépasser les 25 nœuds avec des rafales à 35 nœuds. Le mercure sera quant à lui à la hausse, mais les températures resteront en dessous des normales de saison, comprises entre 22 et 25 degrés.
Merci beaucoup, Ismaël, pour cette météo complète, c'est la fin.